VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du lundi 16 août 2021. Voici d'abord le sommaire. En Zambie, le président élu promet une meilleure démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés. Trois personnes tuées, une vingtaine enlevées dans le collège agricole de l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Évacuation dans l'urgence et dans des conditions très difficiles à Kaboul, tombée aux mains des talibans. Haïti déplore un bilan dramatique de 1300 morts après un puissant séisme qui laisse des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Zambie, Hakainde Hichilema a remporté l'élection présidentielle face au président sortant Edgar Lungu, qui a reconnu sa défaite. L'opposant a très largement été élu avec près d'un million de voix d'avance. Les précisions de John Lyndon.
Hakainde Hichilema, homme d'affaires de 59 ans, se présentait pour la sixième fois à la présidentielle. Il a salué un moment historique que des millions de Zambiens attendaient. Surnommé HH, il s'est adressé à la nation depuis sa maison à Lusaka, la capitale. Il a salué la jeunesse, fortement mobilisée, les moins de 35 ans représentant la majorité des 7 millions d'électeurs inscrits dans ce pays d'Afrique australe qui compte 17 millions d'habitants. C'est avec honneur, humilité et gratitude que je me tiens devant vous pour dire que le changement est là, a-t-il poursuivi. Les attentes des gens sont fortes, a noté celui qui a promis de redresser l'économie du pays, endetté et plombé par une forte inflation. Auparavant, le président sortant avait concédé sa défaite et salué la victoire de son rival. Je veux féliciter mon frère Hakainde Hichilema, président élu, qui devient le septième président de la République de Zambie, a déclaré Edgar Lungu. Arrivé au pouvoir en 2015, M. Lungu a affirmé avoir cherché à servir son pays du meilleur qu'il a pu.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a autorisé dimanche des experts américains à appuyer l'armée congolaise dans la lutte contre le groupe armé Force démocratique alliée, une branche de Daesh. Cette mission doit durer plusieurs semaines. L'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hummer, a rappelé qu'il s'agit de l'application du partenariat privilégié signé par la RDC et les États-Unis en 2019. Trois ressortissants chinois sont portés disparus depuis dimanche dans une zone minière d'Ituri, province aurifère troublée du nord-est de la RDC. Ils auraient été enlevés par un groupe armé, a-t-on appris lundi de sources militaires. Des centaines de civils ont quitté leur village dans le nord du Mali sur ordre des djihadistes ou par peur, une semaine après des attaques qui ont fait 42 morts, selon un bilan définitif des autorités. Toujours au Mali, trois soldats maliens ont été tués dimanche dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule près de Menaka, dans le nord-est du pays, a annoncé l'armée malienne. Plusieurs militaires, dont le nombre n'a pas été précisé, ont aussi été blessés. Une vingtaine d'organisations ont appelé lundi à la libération immédiate de Pascal Zaïda, une figure de la société civile au Burkina Faso, arrêté à Ouagadougou pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion. Au Sénégal, 4 personnes ont été tuées dans une collision entre un taxi et un camion de transport malien hier dimanche au cœur de la ville de Kaolack, dans le sud-est du pays. Après ce drame, des jeunes sont sortis pour exprimer leur mécontentement et ont saccagé plusieurs camions. Plus de détails avec Nama Diara, l'un de nos correspondants à Dakar.
Les camions maliens ont complètement chevauché le taxi dans lequel ils transportaient 5 personnes. 4 sont morts sur le coup, le cinquième s'en est sorti blessé et a été évacué à l'hôpital de Kaolack, selon une source sécuritaire. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue. À cet effet, les jeunes de la ville de Kaolack sont sortis pour exprimer leur mécontentement face aux accidents récurrents. Selon la presse, ces jeunes manifestants ont saccagé 5 camions maliens. La police est intervenue pour rétablir l'ordre dans la ville de Kaolack. Mais la colère des jeunes de Kaolack a engendré la colère des Maliens de Djibouti. une ville malienne à la frontière avec le Sénégal. Une vingtaine de camions sénégalais ont été tour à tour attaqués et vandalisés au poste de douane de Diboli. Les forces de sécurité maliennes n'ont pas pu arrêter les manifestants en colère, selon plusieurs sources. Face à cette situation, les deux ministres des Transports sénégalais et maliens ont appelé au calme tout en promettant des poursuites afin de localiser les responsables du drame qui a coûté la vie à 4 personnes. Le gouverneur de la région de Kaolack a pour sa part pris hier un arrêté interdisant les gros porteurs immatriculés à l'étranger dans l'attente des mesures pour faire face aux accidents de la route dans la ville de Kaolack. C'est lundi, les autorités diplomatiques et syndicales maliennes à Dakar ont fait le déplacement à Kaolack pour s'enquérir de la situation du drame. Nama Diarra, Dakar, VOA Afrique.
Dans le nord-ouest du Nigeria, 3 personnes ont été tuées et une vingtaine, dont plusieurs élèves, ont été enlevées dans le collège agricole de l'état de Zamfara. Plus de détails avec Nani Tetalani.
Un responsable scolaire, Aminu Khalid Maradoun, indique que des hommes armés non identifiés ont attaqué l'école hier nuit. Ils ont tué 3 personnes et ont enlevé 20, dont 15 élèves. Les 5 autres personnes enlevées sont des employés et des membres de leur famille. Il a déclaré avoir reçu un appel téléphonique des ravisseurs ce matin, affirmant qu'il détenait 20 otages. Un responsable de l'administration, Abdoulaye Aminoua, a confirmé l'entrée des hommes armés dans l'école, suivi d'une prise d'otage, précisant qu'ils ont tué 3 membres de sécurité dans une fusillade. C'est le dernier épisode d'une série d'enlèvements de masse dans le nord et le centre du Nigeria. Selon les Nations Unies, environ 1000 étudiants et élèves ont été enlevés dans différents États depuis décembre 2020. La plupart ont été libérés après des négociations avec les autorités locales, mais certains sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le dernier enlèvement de masse remonte à juillet, lorsque des hommes armés ont kidnappé 121 élèves du lycée Baptiste Bethel dans l'état de Kaduna.
Des vaccinations en Côte d'Ivoire contre le virus Ebola, dont un cas a été détecté la semaine dernière à Abidjan, le premier depuis près de 30 ans, doivent débuter lundi, a annoncé le ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire a reçu de Guinée 5000 doses de vaccins contre Ebola. Des sources sanitaires ivoiriennes avaient indiqué que les premières vaccinations d'un groupe cible ont débuté hier dimanche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Scène de chaos à l'aéroport de Kaboul, au lendemain de l'entrée des talibans dans la capitale afghane. Des milliers de personnes tentaient de quitter le pays, certains s'agrippant à un avion militaire qui roule sur le tarmac. Le point avec Abdulrahman Dia.
Une vidéo prise à l'aéroport de Kaboul et diffusée sur les réseaux sociaux démontre le désarroi de centaines d'Afghans qui cherchent désespérément à fuir le nouveau régime taliban. Elle montre des centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage pendant que d'autres tentent de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues. Les troupes américaines sécurisant l'aéroport ont tiré en l'air pour contrôler la foule. Tous les vols commerciaux ont été annulés. Le département d'État demande aux citoyens américains de ne pas se rendre à l'aéroport si leur vol n'est pas programmé. Le personnel de l'ambassade a déjà été évacué. Le département d'État a annoncé que le périmètre de l'aéroport est sécurisé. Les Américains ont envoyé 6 000 militaires pour aider à évacuer quelques 30 000 diplomates américains et civils afghans qui avaient coopéré avec les États-Unis qui craignent des représailles. L'administration Biden, toujours sous le feu de vives critiques, continue de défendre le retrait des troupes américaines.
Face aux images du chaos à l'aéroport de Kaboul et des talibans patrouillant les rues de la capitale afghane, le président Joe Biden va s'adresser aux Américains à 19h45 en temps universel depuis la Maison-Blanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé lundi à organiser une rencontre virtuelle des dirigeants du G7 dans les prochains jours afin d'aboutir à une approche unifiée sur la situation en Afghanistan. Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé samedi le sud-ouest d'Haïti s'est alourdi dimanche à près de 1300 morts et plus de 5700 blessés, selon les services de protection civile du pays. En plus des personnes portées disparues, beaucoup d'autres sont sous les décombres, souligne un communiqué de la protection civile qui précise que près de 3200 blessés ont été accueillis dans les différents hôpitaux. Des milliers de personnes sont sans abri dans le sud du pays ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le Liban observe lundi un deuil national après la mort de 28 personnes brûlées vives dans l'explosion d'une citerne d'essence alors qu'elles cherchaient à se procurer désespérément du carburant. Quatre Palestiniens ont été tués lundi dans des affrontements avec des forces israéliennes au camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où les heurts se sont multipliés ces dernières semaines. L'autorité palestinienne mettant en garde contre une situation explosive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Miller.
Au Niger, le Trésor public a émis un appel public à l'épargne de 150 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit, selon Financial Afrique, de la plus grande émission obligataire dans l'histoire de ce pays au sous-sol riche en uranium et pétrole. La période de souscription s'étend du 16 août au 3 septembre 2021. La Gambie a reçu 29,3 millions de dollars de BP en compensation de l'abandon par le géant pétrolier britannique d'un projet de forage. Selon le porte-parole du gouvernement, BP s'était engagé en 2019 à forer un nouveau puits offshore avant le 29 juillet 2021 dans le cadre d'un permis d'exploration dans les eaux gambiennes. BP, qui vise la neutralité carbone à horizon 2050, avait annoncé en 2020 une baisse drastique des énergies renouvelables. Les actifs de la banque centrale que le gouvernement afghan possède aux États-Unis ne seront pas mis à la disposition des talibans, a indiqué un responsable de l'administration Biden. Les réserves brutes de la banque centrale afghane s'élevaient à 9,4 milliards de dollars fin avril, selon le Fonds monétaire international.
En transition, nous passons à votre page des sports ce soir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer avec le mondial féminin des moins de 19 ans. Le Mali finit au pied du podium. Les Maliennes ont visé une médaille, mais la marche était beaucoup trop haute. Elles se sont inclinées lors du match de classement face à la Hongrie, pays hôte, 88 à 67. Le Mali se classe donc quatrième de ce tournoi remporté par les États-Unis. En finale, en effet, les Américaines ont fait une démonstration de force devant l'Australie, 70-52, et s'offrent ainsi leur 9e sacre dans la compétition. Football, les chiffres sont sans appel. Le Barça a une dette d'1,35 milliard d'euros, une masse salariale de 617 millions d'euros, de 25 à 30% supérieure à celle de ses concurrents, et son patrimoine net est dans le rouge de 450 millions d'euros, annonce Juan Laporta, président du FC Barcelone. Le dirigeant Blaugrana a dévoilé les nouveaux chiffres vertigineux de la crise économique qui frappe le club catalan, une situation dramatique qui a ouvert la porte au départ de Lionel Messi. Nous avons pris des mesures pour résister un an et demi. J'espère que d'ici environ 2 ans, l'économie du club sera saine, a-t-il dit. Concernant le départ de Messi, Laporta assure avoir fait tout son possible dans la limite des possibilités économiques du club. Il confie que la présentation de l'Argentin à Paris lui laisse un sentiment contradictoire. Toujours en Europe, 9 des 12 clubs ayant tenté de lancer une Super League concurrente de la Ligue des Champions ont été réintégrés à l'Association européenne des clubs. C'est ce qu'annonce cette organisation. Il s'agit de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, l'Inter Milan et l'AC Milan, ainsi que l'Atlético Madrid, la Juventus, le Real et le Barça, défenseurs les plus fervents de ce nouveau modèle de compétition, restent hors de l'ECA, dirigé par Nasser El-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Comme les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Paralympiques de Tokyo se dérouleront dans un huis clos quasi total, annonce le comité organisateur à 8 jours de la cérémonie d'ouverture. Cette mesure pour les Jeux Paralympiques qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre est similaire à celle adoptée pour les JO clôturés le 8 août, pour lesquels près de 98% des épreuves se sont tenues à huis clos. Des élèves d'écoles locales pourront cependant assister à certaines épreuves à la demande des autorités locales ou des écoles, précise le communiqué. Les quelques 4400 sportifs attendus à Tokyo pour les Jeux paralympiques devront se soumettre, comme ceux ayant participé aux JO, à des tests quotidiens au Covid-19 et des restrictions de mouvement.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizado retourne avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Afghanistan, les talibans ont pris le palais présidentiel à Kaboul. Le président Ashraf Ghani a fui le pays. Les talibans ont promis qu'ils ne cherchent à se venger de personne, y compris des militaires ou fonctionnaires qui ont servi l'actuel gouvernement. Yakuba Ouedraogo a joint au Canada Sami Aoun, professeur émérite à l'université de Sherbrooke.
Puisque l'Afghanistan est un pays assez pluriethnique, pluricommunautaire en quelque sorte, alors est-ce qu'on va voir de nouveau une autorité taliban qui a le monopole de la décision ou un gouvernement de partage? C'est le scénario peut-être le plus optimiste. Sinon, il y a une guerre civile qui va guetter l'Afghanistan de nouveau.
20 ans de lutte contre les islamistes en Afghanistan, 2000 milliards de dollars de dépensés, des milliers de morts. Est-ce qu'on va dire que cet échec est aussi un échec pour les Américains et l'OTAN?
Oui, certainement, c'est un échec en général de se battre en retraite sans nécessairement atteindre tous les objectifs déclarés au moins. Mais il y a un point où il y a un certain succès pour le moment, c'est celui de la bataille contre le terrorisme. On sait bien que Al-Qaïda, par exemple, responsable des actes odieux du 11 septembre, est déjà maintenant dans une situation vacillante. Mais au-delà de cette question de terrorisme, il faut voir si les talibans vont être encore une fois une couveuse des terroristes qui frappent hors les frontières afghanes.
Et justement, c'est une situation peut-être imminente.
Oui, certainement. Maintenant, ceux qui connaissent les talibans, surtout dans les appréciations américaines, ils croient que sont plutôt un mouvement nationaliste, islamiste, qui est plus intéressé à dominer l'Afghanistan et non pas nécessairement un terrorisme international.
À quoi faut-il s'attendre en Afghanistan dans les jours à venir?
L'Afghanistan est multiethnique, alors il faut voir comment les Tadjiks vont se préparer à un pouvoir dominé par les Pashtuns et non pas n'importe quel Pashtun, les Pashtuns des talibans. Même chose pour les Ouzbeks et aussi les Turkmènes et les Hazaras chiites. C'est pourquoi les talibans, s'ils veulent renouer avec leur politique de domination ethnique et islamiste ultra-conservatrice, il faut s'attendre quand même à des turbulences graves.
Quel message ce retrait des Américains et de l'OTAN de l'Afghanistan et la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans envoie au monde entier?
Le fait qu'il y a cet échec en Afghanistan va mettre en brèche toute l'ambition du droit à l'ingérence, c'est-à-dire de construire un nouveau régime démocratique sous la bannière des droits de la personne, les droits de l'homme. Alors, en ce sens, les Occidentaux, en général, pourraient aujourd'hui dire que leur ambition d'élargir la démocratie a été quand même bien limitée.
Sami Aoun, professeur émérite à l'université de Sherbrooke au Canada. Les États-Unis évacuent le personnel de leur ambassade à Kaboul en Afghanistan pendant que l'administration Biden défend son retrait. Mais les critiques disent que le départ des Américains pourrait créer une crise humanitaire et un refuge pour les extrémistes. Le reportage de Michel Quinn, récit Yakuba Ouedraogo.
L'administration Biden défend sa décision de quitter l'Afghanistan après 20 ans de lutte contre les islamistes. Mais ne s'attendait pas à ce que les talibans avancent aussi vite qu'ils l'ont fait. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Le président a décidé qu'il est temps pour les États-Unis de mettre fin à cette guerre, de sortir d'une guerre civile en Afghanistan et de s'assurer que nous conservons nos intérêts dans le monde entier et que nous créons les conditions pour faire avancer ces intérêts. C'est ce que nous faisons.
Certains législateurs républicains ne critiquent pas seulement l'administration Biden. Ils blâment aussi l'administration de l'ancien président Donald Trump pour sa décision de se retirer complètement d'Afghanistan d'ici mai 2021. Le président Joe Biden a ramené cette date au mois d'août. Les critiques affirment que la gestion du retrait par l'administration actuelle est une tache noire pour les États-Unis sur la scène internationale. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a publié dimanche une déclaration disant que les terroristes et les adversaires observent l'embarras d'une superpuissance mise à terre. Liz Cheney est une députée républicaine.
Cela va avoir des ramifications, pas seulement pour l'Afghanistan, pas seulement pour nous en Afghanistan, pas seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais globalement pour le rôle de l'Amérique dans le monde. Les adversaires de l'Amérique savent qu'ils peuvent nous menacer et nos alliés se demandent s'ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit.
Le secrétaire d'État Blinken a déclaré que la crainte est évidente que les talibans qui ont dirigé le pays à partir de 1996 avec un gouvernement fondamentaliste islamiste jusqu'à son éviction en 2001, n'impose à nouveau des règles strictes pour les femmes et les autres. Mais c'est à la communauté internationale d'aider le peuple afghan, dit-il, et aussi dans l'intérêt des talibans de poursuivre avec un gouvernement qui défend les droits fondamentaux.
S'ils ne le font pas et s'ils sont en position de pouvoir et qu'ils ne le font pas, alors je pense que l'Afghanistan deviendra un État paria.
7 Américains sur 10 ont soutenu la décision de retrait de Biden, selon un sondage du Chicago Council of Global Affairs en juillet. Il reste à savoir si les scènes d'une prise de contrôle rapide de la capitale par les talibans vont changer le soutien américain au plan du président.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le retour triomphal des talibans à Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés par l'armée américaine. La prise de la capitale afghane avant même la fin du retrait américain a surpris Washington et ses alliés occidentaux. L'administration de Joe Biden, sous le feu des critiques, défend sa décision de retirer les troupes américaines suite à un accord à Doha entre les talibans et les États-Unis sous Donald Trump. Quelles sont les conséquences du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour la région et les États-Unis? Nous allons débattre de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
24 heures après le retour des talibans à Kaboul, les Maliens qui vivent une situation assez similaire sont préoccupés entre incompréhension et peur de voir le même scénario se produire chez eux. Ils s'expriment au micro de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Bon, moi je pense que ce retour n'est pas une très bonne chose dans la mesure où il était en train d'être chassé par non seulement les Américains, les Russes et toutes les forces occidentales. Et aujourd'hui, si on nous dit que les talibans ont eu la victoire sur les Afghans, vraiment je pense pas que ce soit une bonne chose. Et je ne comprends pas du tout le retrait des forces occidentales, surtout des forces américaines, pour laisser place libre à ces talibans. Je ne comprends vraiment pas.
Par rapport au retour des talibans en Afghanistan, cela dénote peut-être un échec de la communauté internationale dirigée par les États-Unis, de mon point de vue, parce que depuis 20 ans, les États-Unis ont essayé peut-être de former l'armée afghane, peut-être sans les mettre dans les conditions idoines, parce que ni sur le plan aérien, ni sur le plan logistique, cette armée n'a pas pu être mise au point par cette coalition internationale. Et dès que les États-Unis ont annoncé leur retrait, facilement, les talibans ont récupéré le pays. Donc ce n'est qu'un échec de la communauté internationale, de mon avis personnel.
D'abord, ce qu'il faut quand même constater de ce retour des talibans après le départ des forces américaines, c'est que pendant 20 ans, l'armée américaine était sur place, mais on voit qu'ils n'ont pas assuré la postérité. Quand on vient pour aider un pays militairement, il ne suffit pas de
de déplacer le problème, parce qu'on a vu que juste après leur départ, pendant 20 ans, ils étaient sur place et le pays tombe entre les mains des talibans. Donc je crois qu'ils ont fait le travail à moitié. Il fallait assurer une certaine formation et un certain nombre d'équipements avant de faire le départ.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 7.2 en Haïti s'est alourdi à près de 1300 morts, selon l'agence de protection civile du pays. Le reportage de Steve Heich,
le récit avec Rosine Munezero. Trouloulip à environ 125 km à l'ouest de la capitale Port-au-Prince, selon l'US Geological Survey. Au moins 1800 personnes sont blessées et d'autres sont portées disparues dans un contexte de dégâts considérables selon les autorités. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a pris ses fonctions il y a seulement 3 semaines après l'assassinat du président Jovenel Moïse, a déclaré l'état d'urgence pendant 1 mois. Il a déclaré que le gouvernement mobilisait l'aide pour les zones touchées et a appelé à la solidarité.
Nous appelons à beaucoup de solidarité, mais une solidarité très structurée. Nous mettons en place une task force pour coordonner l'aide afin que ce qui s'est passé le 12 janvier 2010, le tremblement de terre de 2010, ne se reproduise plus.
Le premier ministre haïtien s'est envolé ensuite vers Les Cayes, dans le sud de l'île. Les Cayes, qui est la plus grande ville près de l'épicentre, des bâtiments se sont effondrés et les dégâts sont importants. Plus de 24 heures après le séisme, les secouristes recherchent toujours d'éventuels survivants. Les glissements de terrain restent un danger important selon l'US Geological Survey. Le service de protection civile d'Haïti a déclaré qu'un glissement de terrain a bloqué l'autoroute entre Les Cayes et la ville de Jéré.
Les Cayes, qui est la plus grande ville près de l'épicentre, les bâtiments se sont effondrés et les dégâts sont importants. Plus de 24 heures après le séisme, les secouristes recherchent toujours des éventuels survivants. Les glissements de terrain restent en danger important selon l'US Geological Survey. Le service de protection civile d'Haïti a déclaré qu'un glissement de terrain a bloqué l'autoroute entre Les Cayes et la ville de Jéremy.
L'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, a annoncé sur Twitter qu'elle avait autorisé le déploiement d'une équipe d'aide aux sinistrés. 13 spécialistes dans l'intervention en cas de catastrophe et 31 tonnes de fournitures d'urgence, des abris et 2 unités pour filtrer l'eau seront transportées vers Haïti pour diriger la réponse des États-Unis à ce tremblement de terre. Par ailleurs, l'Organisation panaméricaine de la santé déploie des experts pour aider Haïti.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Omanela Kiza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.